Nous sommes dans le thème « L'Église et moi » et là c'est le cycle nous amène sur « Accueillir les faibles ». Mais la question que je viens de poser c'est « Qu'est-ce que c'est qu'un faible ? Qui est le faible ?» J'étais sur le point de dire que quand l'apôtre Paul dit qu'il est le plus petit des apôtres par exemple, ou qu'il est le plus petit des saints, ce n'est pas le même mot qui est utilisé que le mot « faible ». C'est plutôt dans ce cas-là l'expression de sa modestie, de son humilité. Ce n'est pas forcément très lointain du mot faible, mais ce n'est pas le même. Dans le grec du Nouveau Testament, il y a un mot très très souvent utilisé, mais qui a des sens multiples, qui a donné le mot asthénie en français. Voilà, quelqu'un d'asthène, je ne sais pas si ça se dit ça, c'est quelqu'un qui a pas de force. Voilà, Et bien, nous allons étudier un petit peu cette idée-là que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Donc la première partie, ce sera « Qui est le faible ?» Et la deuxième partie de la soirée, ce sera le thème « Accueillir le faible ». Alors, on va tout d'abord regarder quels sont les sens les plus simples du mot « faible ». Il y a des sens tout à fait normaux, je dirais, courants, qui n'ont pas un sens figuré. Tout d'abord, le mot désigne très souvent des malades. Et alors là, on le trouve très nombreux dans les évangiles, parce que Jésus allait guérir des malades. Et les malades, c'était les asthènes, les faibles. C'est de loin les occurrences les plus fréquentes du mot. Ensuite, c'est un mot qui peut désigner la pauvreté aussi. On trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, acte 20, verset 35, dans le discours de Paul aux anciens d'Éphèse. Vous voyez, quand il prenait congé des anciens d'Éphèse, et il leur recommande de venir en aide aux faibles. Puisque je suis déjà venu chez Paul, je peux citer un petit texte qu'il écrit aux Galates concernant sa propre maladie. Et là, on voit bien que c'est la maladie dont il parle, puisqu'il dit « Ma maladie m'a forcé à venir vous voir et m'a conduit à vous évangéliser. » Galates 4, 12. C'est un texte que j'ai redécouvert, parce que très souvent, on parle de cette maladie que Paul avait, pour laquelle il a prié, et puis Dieu l'a laissé avec sa maladie. Et là, Paul voit sa maladie comme de quelque chose de positif, puisque c'est ça qui l'a conduit à évangéliser les Galates. Alors, on ne connaît pas les circonstances, d'ailleurs, que Paul évoque, que les Galates devaient comprendre, mais en tout cas, il dit quelque chose sur sa propre maladie. Ceci dit, donc, c'est un des sens qui nous intéressera pas ce soir, la maladie... Même si c'est un sujet très intéressant dans le Nouveau Testament, ce n'est pas mon objet. Accueillir les faibles, ça ne veut pas dire accueillir ceux qui ont mal aux pieds. Ça peut vouloir dire accueillir certaines formes de maladies qui correspondent à une faiblesse spirituelle, certaines formes de maladies psychiques, éventuellement. Le sens de pauvreté, je vous l'ai dit, dans Acte 35. Puis alors, il y a un mot... il y a une utilisation assez particulière, c'est l'apôtre Pierre qui l'a fait. Alors, très délicat, il parle des femmes et il dit que les maris doivent prendre soin de leurs femmes qui sont asthènes. Alors, faut-il traduire faible ? La femme est-elle, bon, on dit bien le sexe faible d'ailleurs, mais est-ce que ça veut dire que les femmes sont en dessous ? Alors, les traducteurs ont choisi de traduire la notion de faiblesse par le mot que j'ai mis à l'écran, « délicat ». J'ai regardé la TOB, la français courant, la semeur, tout le monde met « délicat ». Et j'ai trouvé que cette traduction était très opportune. Bon, voilà pour les sens les sens simples du mot « faiblesse ». Et puis... nous arrivons à un domaine, tout un champ sémantique, pour bien parler, du Nouveau Testament sur les asthènes du point de vue spirituel. Premièrement, alors vous avez le texte, on va se promener ce soir, hein. Vous avez pris vos chaussures de marche, Romains 5, vous avez un texte qui dit que Jésus est venu au secours de notre faiblesse. Romains 5, 6. Lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. Bien, le mot sans force en grec c'est asthène. Lorsque nous étions sans force, d'ailleurs c'est une traduction très littérale du mot asthène, puisque le A est un privatif Et le sténos ou sténein, c'est être costaud. Donc nous étions sans force, ça veut dire que nous n'avions aucune ressource, aucune force en nous. Et c'est à ce moment-là que Christ est venu. C'est pour ça que je parle de cette faiblesse comme étant la faiblesse totale, je dirais, la faiblesse de celui ou de celle que Dieu vient secourir. Mais plus, je dirais de manière moins radicale, la faiblesse désigne dans un certain nombre de textes du Nouveau Testament une difficulté spirituelle, simplement. Quand Jésus, alors je vais quitter Paul quelques minutes, je vais voir Jésus maintenant. Quand il était à Gethsémané et que ses disciples s'étaient endormis, il a sorti une phrase très célèbre qu'on utilise aujourd'hui encore. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors déjà, il faut comprendre ce que Jésus veut dire par chair. La chair, c'est dans ce cas-là, la nature, le naturel. C'est comme si on disait chasser le naturel, il revient au galop, quoi. C'est le naturel, c'était qu'ils avaient une furieuse envie de dormir. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Alors Matthieu 26 et Marc 14 qui citent cette phrase. La chair est faible, ça veut dire notre nature humaine a du mal à tenir. Si on compare de manière, non pas là, c'était juste arriver à s'empêcher de, pas arriver à, non, attendez voir, pas arriver à s'empêcher de dormir, c'est ça. Ouais. Ben, si on compare cette petite scène avec le chapitre 7 de Romains, quand il dit, de Paul aux Romains, quand lui, Paul, il dit « Moi, je décide de faire le bien, mais j'y arrive pas ben, », la chair est faible. C'est Paul réexplique avec, cette fois-ci, un vocabulaire un peu plus théologique, ce que Jésus a ramassé en une phrase, la chair est faible. Et ce que l'apôtre Paul explique, c'est même plus qu'on a du mal à tenir de bonne résolution, c'est qu'il s'agit véritablement d'une inclination au mal. Alors l'inclination au mal, on la voit aussi dans la lettre aux Hébreux, par exemple. Christ est venu au secours, et c'est là que cette phrase que je citais tout à l'heure, elle est dans l'hébreu en fait, j'avais un peu d'avance. Christ est venu au secours de notre faiblesse. Et la faiblesse, c'est la détresse humaine, c'est l'incapacité de plaire à Dieu, puisque c'est tout le thème de l'Épître aux Hébreux, de plaire à Dieu par nous-mêmes, par un respect que nous aurions de la loi. Eh bien non, ça ne marche pas. On est incapable. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du grand prêtre. Et il dit, le grand prêtre humain, à cause de sa faiblesse, il doit offrir des sacrifices. Tandis que le grand prêtre divin, Jésus, n'a pas besoin d'offrir des sacrifices parce qu'il n'a pas de faiblesse. Il est parfait, il est sans péché. Donc la faiblesse, c'est bien cette idée, elle est copine avec le péché, avec le mal dans notre vie. Donc première définition, mais je vais vous en proposer plusieurs. Parce que la notion de faiblesse, c'est une privation de quelque chose. Alors forcément, suivant de quoi on est privé, on peut être privé de richesse. On peut être privé de force, on peut être privé de valeur, on peut être privé du nombre. Tous ces sens-là se trouvent dans le dictionnaire pour notre mot. Première définition, donc, une inclination au mal. Deuxième définition, c'est l'apôtre Paul qui en parle, Romains 6, puisque nous sommes dans Romains, enfin moi j'y suis toujours en tout cas, Romains 6, 19. Paul est en train d'expliquer quelque chose. Et puis, il dit, je parle de manière humaine à cause de la faiblesse de votre chair. Alors, je prends la même expression que Jésus. En gros, vous êtes un peu bourrin, les amis, vous ne comprenez pas grand-chose. C'est ça que veut dire, je parle de manière humaine. C'est-à-dire, je vole pas trop haut, je reste à votre portée, parce que vous n'êtes pas très évolué, les Romains. Voilà. Donc, il s'agit d'une difficulté à comprendre. Paul va utiliser cette même idée avec le lait. Vous souvenez de l'image du lait qu'il utilise dans 1 Corinthiens ? Il dit, moi je dois vous donner du lait parce que la viande solide, vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas la digérer, vous êtes trop... C'est comme si on donnait un steak frites à un gamin de 3 mois, quoi. Ça n'irait pas, il est incapable de le manger. Peut-être des adultes non plus d'ailleurs parfois. Hébreux, la lettre aux Hébreux utilise aussi l'image du lait. Ben, c'est cette idée, la faiblesse. C'est une compréhension superficielle de l'évangile. On n'a pas tout compris. On n'arrive pas. on ne s'est peut-être pas donné les moyens d'étudier ou on n'a pas les moyens d'étudier. Mais il y a pire encore en matière de faiblesse spirituelle. C'est pas une difficulté de comprendre l'Évangile, c'est une déformation légaliste de l'Évangile. Alors là, nous allons aller voir l'épître de Paul. Alors, on est toujours chez Paul, mais on va chez la lettre aux Galates. Pour les connaisseurs, vous savez bien que la lettre aux Galates, c'est la dialectique entre la loi et la grâce. Et donc là, l'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins. 4:9. Je vais tout simplement lire pour l'instant. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. On sent l'apôtre Paul très remonté. Alors, où est le mot faible là-dedans? Où se cache-t-il? Eh bien, vous l'avez sans doute deviné, c'est le mot impuissant dans la traduction que j'ai lue. Et moi, j'ai la Nouvelle Bible Second. Et donc là, c'est des éléments faibles. Et qu'est-ce que c'est que cette faiblesse des éléments? C'est tout simplement un retour. On fait ressortir les lois juives dont l'apôtre Paul avait pourtant bien démontré qu'elles avaient leur utilité, mais qu'elles nous renvoyaient surtout à notre propre incapacité de les mettre en œuvre et qu'il fallait arriver au pardon de Dieu. Et voilà que ces chrétiens de Galatie, eux, reviennent ou vont à des observances qui ne sont que l'ombre de la lumière à venir, d'après l'apôtre Paul lui-même. Et les Galates, du coup, et c'est ce qui provoque la colère de l'apôtre Paul, les Galates déforment l'Évangile par toute une série de règles du judaïsme, peut-être d'autres règles. Alors là, Paul cite des observances de jours, de mois, de saisons et des années. On verra d'ailleurs ces questions de jours ailleurs, sans bien savoir s'il s'agit du contexte juif ou s'il s'agit d'autres pratiques. Mais ici, en tout cas, c'est... Vu le contexte, la lettre aux Galates, c'est quand même plutôt lié au judaïsme. L'apôtre Paul leur dit qu'ils ont déformé l'Évangile. Hein. Il parle même d'annoncer un autre Évangile. Et là, on va avoir les deux textes qui vont arriver, pointe à l'horizon, les deux textes majeurs qui seront discutés dans les groupes, mais que je vais déjà vous proposer ce soir. Ces deux textes, un de Romains et l'autre de 1 Corinthiens, où Paul parle de ces questions d'observance. Les uns ont la connaissance, les autres n'ont pas la connaissance, les forts doivent accueillir les faibles et tout ça, et les uns observent les jours, les autres pas du tout, les uns mangent que des légumes, d'autres mangent de la viande. Alors c'est parfois très, très probablement pas des questions de végétarisme, hein. C'est un contexte différent, pas forcément à exclure, mais voilà. Donc la faiblesse spirituelle, c'est la déformation légaliste de l'Évangile. On peut trouver, mais c'est plus à se citer une seule fois, une difficulté de prier. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient à notre secours, alors c'est Romains 8, tenez, on va le prendre. Romains 8, le Saint-Esprit vient à notre secours parce que nous avons du mal de prier. Et là, le mot faiblesse est utilisé. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ben voilà, on est maladroit dans la prière, on n'y arrive pas trop, ben c'est notre faiblesse. Et le Saint-Esprit vient nous secourir dans notre faiblesse. Et puis une autre mention, c'est l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est toujours cité dans Romains, je citerai pas mal Romains aujourd'hui, hein, Corinthiens aussi. Romains 4, 19, c'est Abraham qui est parti de son pays, il a fait preuve de confiance en Dieu, et il est bien écrit, sans faiblir. verbe de la même racine, hein, vous l'avez remarqué, sans faiblir dans la foi, il considéra son propre corps, c'est à propos de ses enfants, de son enfant, de l'enfant promis. Hein. Il considéra son propre corps déjà atteint par la mort, en gros, il s'est dit, je suis quand même trop âgé pour avoir un enfant, sauf que il avait près de 100 ans, et le ventre mort de Sarah, et puis, face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas, etc., etc. Donc, Abraham a eu foi, il n'a pas faibli dans sa foi. Donc, moi, j'ai dit, à ce moment-là, une faible foi, c'est tout simplement un manque de confiance en Dieu. Voilà pour la faiblesse spirituelle. Mais il y en a une autre. Et c'est là que la question devient un petit peu grattage de tête, comme je fais là. Parce que la faiblesse, dans d'autres textes de l'apôtre Paul, c'est une vertu. Il faut la rechercher. Alors Paul, tu es schizophrène, ça ne va plus. Soit tu dis que la faiblesse, c'est donc une difficulté spirituelle, soit tu dis que c'est une vertu chrétienne. Et là, on va lire dans 1 Corinthiens. C'est intéressant de voir que le contexte de l'épître aux Corinthiens, c'est l'exercice des charismes, des dons que Dieu fait à ses enfants pour la croissance de l'Église. Super. Mais à Corinthe, il y avait des gens qui, peut-être, s'étaient laissés entraîner dans un genre d'orgueil, de surenchère. Moi, j'ai un don plus valable que le tien, etc. On voit que Paul règle un peu les choses dans les chapitres 12, 13, 14, quand il dit que l'amour est, par exemple, l'amour, chapitre 13, c'est le meilleur des dons, et il compare au parler en langue, à la prophétie, à d'autres choses encore. Donc, on voit bien que ces choses-là étaient importantes pour les Corinthiens, et à raison d'ailleurs, mais c'est dans cet épître qu'il va vanter la faiblesse pour couper l'herbe sous le pied de ceux qui font un genre de compétition au charisme et leur dire, de toute manière, nous ne sommes, j'utilise une image qu'il utilise lui, nous ne sommes que des vases de terre. C'est Dieu qui est puissant. Regardons. 1 Corinthiens 1, 27. Ah, déjà, ça commence bien. Ça va rassurer tout le monde. Au cas où vous étiez inquiet. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde. Ça va, on est tous concernés, hein ? Surtout moi, oui. Pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Ben voilà, ça va être ça, ce thème-là, ça va être repris dans l'ensemble de l'épître. Dieu, si tu prétends être au service de Dieu, bah oui, ok, Dieu a choisi ce qui est fou, ce qui est faible et ce qui est vil. Donc tu es fou, tu es faible et tu es vil. Donc l'orgueil des Corinthiens, chapitre 1, hein, d'entrée, Paul pose le décor. Chapitre 2, verset 3. Moi-même, j'étais chez vous dans un état, alors Paul se cite en exemple donc, dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Alors on voit Paul, on sait qu'il était malade, on sait qu'il a connu des moments difficiles, où il avait des voyages pénibles, il n'y avait pas le TGV à l'époque. Ma parole et ma proclamation, je continue, je suis au verset 4, n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. Autrement dit, j'ai parlé comme j'ai pu, j'étais pas un bon orateur, j'étais pas terrible Paul à ce moment-là. Et là, voilà ce qu'il conclut. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, en l'occurrence la sienne, mais en la puissance de Dieu. Donc on voit un Paul vide, vide de ses propres forces, et du coup ça laisse passer le message de la puissance de Dieu au travers de lui. Il a parlé par l'esprit. Et n'a pas cherché à convaincre, sinon par la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 4, nous sommes toujours dans le même registre. Nous sommes, alors de nouveau, hein, verset 10. Nous sommes fous à cause du Christ, décidément. Hein, mais cette fois-ci, il va se comparer, lui, apôtre, avec les Corinthiens. C'est un peu la même idée que il va se dépouiller de tous ses mérites pour que les Corinthiens, eux, reçoivent la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Et c'est au travers de lui, pot de terre qui contient un trésor, que l'évangile va passer. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes avisés dans le Christ. Nous, nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Les Corinthiens ont reçu ce trésor que Paul leur a donné au travers de lui. Et ce que Paul exprime ici aussi, c'est l'opprobre qu'il a subi, qu'il a porté, parce qu'il a été rejeté, condamné, etc. On va passer à la deuxième lettre aux Corinthiens. J'ai toujours pas lu les deux textes majeurs de Romains 14 et 1 Corinthiens 8. Hein. 2 Corinthiens 11, on va tout de suite presque à la fin de la lettre. Et là, on est sur sur un texte de Paul qui défend son ministère. C'est intéressant de noter comment, avec le ton qu'il a pris dans 1 Corinthiens, comment il va s'y prendre maintenant. Donc 11:30, « S'il faut faire le fier, c'est de ma faiblesse que je ferai ma fierté. » Vous voyez que la faiblesse devient une vertu à ce moment-là. « Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni pour toujours, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damasséniens pour se saisir de moi, mais on m'a descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. » Pourquoi l'apôtre Paul raconte-t-il cela? Tout simplement pour dire « bah ouais, moi je ne suis pas rentré par la grande porte, hein, j'ai dû me sauver ma vie comme j'ai pu, un peu ridicule, pendu le long d'une muraille dans un sac de provisions. Voilà, donc c'était vraiment la faiblesse, pour ça qu'il raconte ça, pour étayer sa faiblesse, le propos de sa faiblesse. Mais Paul continue, chapitre 12, « Il faut faire le fier, certes, c'est inutile, mais j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. » Et puis alors là, Paul raconte ce qu'il a vécu justement dans les grandes révélations que Dieu lui a faites. Paul pourrait choisir, il le souligne, pourrait choisir de se vanter. Il le dit ailleurs, moi je suis juif, né de juif, pharisien, docteur, machin, j'ai un pédigré gros comme ça et tout, mais pourtant tout ça, ça ne m'intéresse pas. Paul pourrait choisir de se vanter, mais il ne le fait pas pour laisser toute la lumière sur Dieu. Et c'est ce magnifique texte qui va conclure son discours, toute petite phrase, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que c'est quand je suis faible que je laisse la puissance de Dieu venir dans ma vie et que j'en suis fort. Et c'est, tout est ramassé. Encore une fois, d'habitude Paul est un peu long, mais là, il a l'art de la formule. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et on a un parallèle un peu plus loin, au verset 4 du chapitre 13, sur cette faiblesse et cette force, la faiblesse qui laisse la place à la force. Car il a été crucifié, alors, par de Jésus, hein, dans la faiblesse, mais il vit en vertu de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui pour vous, en vertu de la puissance de Dieu. La faiblesse comme vertu chrétienne n'est pas une vertu. Elle a la seule fonction de laisser la puissance de Dieu venir. Et donc nous devons tous être faibles de cette faiblesse-là, conscients de nos limites. Voilà ce que je vous propose comme définition, en quelque sorte, de cette faiblesse à rechercher. La faiblesse au sens d'une profonde conscience de nos limites et de notre petitesse devant le Dieu puissant, d'une profonde humilité et d'une confiance en Dieu d'autant plus grande, est une vertu spirituelle. Et j'apprécie particulièrement que l'apôtre Paul ait développé cette faiblesse dans 1 et 2 Corinthiens. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand moi je prétends être le plus instruit, le plus ceci dans l'église, le plus cela, je fais fausse route. Quand bien même je dois faire de mon mieux pour servir le Seigneur, si j'ai les meilleurs dons du monde, etc., etc., je fais fausse route si je veux briller. C'est Dieu que je dois mettre en lumière. Je dois cultiver cette intense conscience de ma petitesse devant Dieu pour ne pas tomber dans l'orgueil dans lequel un certain nombre de chrétiens de Corinthe était tombé, tout en maniant des choses qui étaient très belles. Les charismes étaient très bien, je veux dire, de guérir, de faire le bien, de tout ça, c'est formidable. Mais si l'être humain est ainsi fait que même les choses les meilleures, il peut en faire un usage perverti, et c'était le cas à Corinthe. Donc voilà, des questions, des remarques sur mes propositions de définition de la faiblesse. Tout va bien ? Bon. Alors, quand on parle du faible, on va plutôt parler de la deuxième définition, la difficulté spirituelle. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit ? Là, vous l'avez là. La difficulté spirituelle, c'est une inclination au mal, c'est une compréhension superficielle de l'Évangile, ou même une déformation légaliste de l'Évangile, c'est une difficulté de prier et un manque de confiance en Dieu. Quand il est dit « accueillez le faible » dans Romains 14, c'est celui-là. Il faut accueillir. Alors tout d'abord, pour terminer, l'accueil du faible est aussi, sous la plume de Paul, un sujet fréquent. Enfin, pas fréquent, mais repris à une dizaine de fois. C'est pas rien, quand même. 2 Corinthiens. Alors, c'est une autre. C'est toujours dans 2 Corinthiens, donc la lettre où il y a beaucoup cette notion de faiblesse comme vertu. Mais là, ça ne va pas être ça. Le mot faiblesse est complexe, quoi. Je veux dire, c'est toujours le même mot en grec comme en français. Hein. 2 Corinthiens 11, 29. Qui est faible sans que je sois faible? De qui cause-t-on la chute sans que moi-même je brûle? Là, l'apôtre Paul, il explique qu'il s'inquiète pour les gens qui ont des difficultés spirituelles. Et si quelqu'un, il apprend que quelqu'un a chuté, c'est-à-dire a péché, a fait de mauvais choix, a fait le mal dans sa vie, autour de lui, il brûle. Ça veut dire il est très très inquiet pour les Corinthiens. Donc c'est cette faiblesse-là qui doit être notre souci aussi. C'est-à-dire, si l'apôtre Paul lui-même, qui était un grand, qui a écrit la lettre aux Romains, c'est tout de même pas un touriste, et qui avait des voyages, qui a fondé des dizaines d'églises, qui a à l'origine de la conversion de centaines de personnes et peut-être plus, et celui-là, ce Paul-là, il brûle quand quelqu'un tombe. Il est faible avec celui qui est faible, tellement il s'inquiète pour lui. Nous aussi. Quand nous avons des faibles autour de nous, des gens qui ont des difficultés spirituelles, nous devons les porter dans nos cœurs. Nous devons nous faire du souci pour eux, à l'image de Paul. Ça ne doit pas nous être indifférent de voir des gens qui ont des difficultés. Première leçon que l'apôtre Paul nous donne. Deuxième leçon, et là on va déjà rentrer dans les deux textes que nous verrons dans un instant. 1 Corinthiens 9, 22. Et là, de nouveau, il s'agit du faible au sens de la difficulté spirituelle. Quand l'apôtre Paul décrit son ministère, il le fait à plusieurs endroits dans les deux lettres aux Corinthiens. Et au verset 22, il dit, au verset 19, il dit « Bien que je sois libre à l'égard de tous, j'ai ma conscience, d'ailleurs cette liberté de conscience, on va la retrouver dans Romains 14 et 1 Corinthiens 8, les deux gros textes qu'on va voir dans un instant, « Je me suis fait l'esclave de tous » afin de gagner le plus grand nombre. » Là, on voit le missionnaire. Mais ça veut dire quoi, se faire l'esclave de tous? Il explique. « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. » Il a respecté les lois juives, d'ailleurs, il les connaissait très bien lui-même, pour être en bonne relation avec ses compatriotes. « Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. » On pourrait presque l'accuser d'hypocrisie, là, l'apôtre Paul. Il est versatile, il fait de la démago, il veut plaire, il retourne sa veste suivant la couleur, le sens du vent ou les gens qu'il a en face de lui. Avec les sans-loi, comme un sans-loi, alors que tout à l'heure, il parlait d'observer la loi juive, afin de gagner les sans-loi. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu. Je suis lié par la loi de Christ. Et voilà, nous arrivons. J'ai été faible avec les faibles. J'ai connu les difficultés spirituelles avec ceux qui les connaissaient. Je me suis fait tout à tous Alors, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et derrière cette affirmation de l'apôtre Paul, on sent un homme qui s'est donné dans les relations avec les gens, quels qu'ils soient. Sans distinction, sans racisme, sans ségrégation, mais en se donnant aux gens et en essayant de rentrer en communication avec eux. Au risque d'y perdre son latin, si je puis dire. Parce que tantôt observer la loi, tantôt faire comme s'il n'y avait pas de loi, suivant les gens qu'on a en face de soi, quand même très compliqué. C'est presque un reniement de soi. Mais en tout cas, il a été faible avec les faibles. Ça montre qu'il n'a pas... Attendez, l'apôtre Paul, c'était qui ? Faible avec les faibles ? Il connaissait la Torah, il connaissait les lois juives, il connaissait... Il avait étudié l'évangile, la venue de Jésus-Christ, et ce que ça voulait dire pour un juif. Il était capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'écrire des choses et de faire des choses extraordinaires, et il était faible avec les faibles. Si là, il n'y a pas une leçon que nous devons prendre... Dans notre comportement à l'égard des gens qui ont des difficultés, moi je ne comprends pas. Nous devons suivre l'exemple de Paul, qui était faible avec les faibles. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont des difficultés dans leur vie, s'il y a des gens qui ne comprennent pas bien l'évangile, eh bien nous devons quand même vivre et partager des moments de communion et d'amitié avec eux. Il ne s'agit pas de les regarder de haut parce que ces pauvres gens, ils n'ont rien compris. Il s'agit de les aimer, tout simplement, et de parler leur langage. Et même de parler des erreurs que si nous jugeons qu'ils font des erreurs, de les faire avec eux. Ça va jusque-là. C'est très difficile, mais nous devons le faire. 1 Thessaloniciens 5, il y a un texte intéressant là, un mot peu courant. Voyons, verset 14. Nous vous y encourageons, frères, donc c'est les recommandations finales, la fin de la lettre, hein. Avertissez les indisciplinés, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles. Alors le mot soutenir est diversement traduit, c'est un mot qui est en grec tout simple, mais qui a, comme tous les mots tout simples, plein de traductions possibles. En tout cas, c'est l'idée de prendre les faibles en compte, de s'attacher à eux, de pas les considérer comme une quantité négligeable dans l'Église. Et puis, très belle image de l'apôtre Paul, toujours aux Corinthiens, le corps. Le corps. 1 Corinthiens 12. Et là, il parle des membres les plus faibles. Et qu'est-ce qu'il faut faire des membres les plus faibles ? Ben, on les laisse tomber, hein, on s'en fout. Ils embêtent, hein, ils empêchent d'aller plus vite. Non, c'est ceux dont on prend le plus soin. 1 Corinthiens 12, verset 22. Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Alors, vu mon passé, j'ai quelques illustrations en moi-même que je peux vous évoquer. Un gros orteil. À un moment donné, j'ai dû me faire poser une prothèse du gros orteil. Gros orteil, vous l'avez déjà présenté, mon gros orteil. Vous l'avez jamais vu, mon gros orteil. Sauf ceux qui... Enfin, si vous croisez à la piscine, je ne sais pas où. Mais vous voyez ce que je veux dire? Gros orteil, ben, on ne peut plus marcher, en fait. Je ne pouvais plus marcher. Je boitais, je marchais comme Charlot pour éviter la... Un gros orteil. L'oreille interne, prenez l'oreille interne. Vous avez déjà eu des problèmes d'oreille interne? On tombe, parce que ça commande l'équilibre, il paraît. Ça se voit pas à l'oreille interne, il n'y a pas une flèche, je disais c'est ça l'oreille interne. Et pourtant, un petit truc, un petit machin, je parie que c'est très compliqué l'oreille, qui ne marche pas bien, et nous on perd le nord, on perd l'équilibre, etc. On va faire. C'est deux choses que j'ai vécues, donc je peux en parler, mais vous avez certainement vécu d'autres choses. Les membres faibles du corps, nous en prenons d'autant plus soin. Ce n'est pas de l'élitisme que nous avons dans l'Église, c'est de la solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Bon, vous avez des questions ? On arrive à nos deux textes. Donc là, il y a un Romains 14, tout le chapitre, et on va déborder jusqu'au chapitre 15. Et j'ai essayé de faire ce qu'on appelle une synopse, c'est-à-dire de mettre, parce que c'est des textes qui parlent pas mal de la même chose, de mettre les deux textes ensemble. Alors ça commence mal parce qu'il y en a le premier, il est tout seul à le dire, hein, Romain, accueillez celui qui est faible dans la foi sans discrimination d'opinion. Il est tout seul à le dire. Donc j'ai mis que le côté gauche. Alors, déjà le verbe accueillir. C'est le thème qu'on a. Hein. J'ai 20 minutes. C'est le thème qu'on a. Accueillir. Alors, le mot en grec, il est assez actif. C'est pas tolérer, quoi. C'est pas bon, mets-toi là. C'est pas ça, hein. C'est prenez-le en compte. C'est pas le même mot que soutenir les faibles de tout à l'heure, mais c'est un mot qui veut dire accueillir au sens vraiment humain, quoi. On lui fait bon accueil, on lui fait sa place aux faibles. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui commence à le dire. Et puis ensuite, il va poursuivre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez... C'est un peu petit, hein, là, mais... Ah, bah ça va mieux, là. Allez, on va... Bon, bah sinon, il y a des chaises devant, hein, pour ceux qui sont au fond. Voilà. L'apôtre Paul aux Romains, là, c'est toujours Romain qui, pour l'instant, garde la main, en quelque sorte. L'apôtre Paul, il dit qu'il y a... Alors, j'essaie un résumé, hein, vous voyez. Il existe plusieurs points de vue. Dans la lettre aux Corinthiens, il va pas aborder la question de la même manière. Il va aborder la question sous l'angle de la connaissance. Il y en a qui connaissent, qui ont la connaissance, mais il y en a d'autres qui n'ont pas la connaissance. Mais aux Romains, il dit, bon, il y a plusieurs points de vue, plusieurs pratiques. Et les deux pratiques qu'il va citer... Enfin, toutes les pratiques qu'il va citer sont dans le souci de plaire à Dieu. C'est pas, il y en a les uns qui sont fidèles à Dieu, puis les autres qui sont pleins de compromis et qui... hein. Non, c'est pas ça. Les uns et les autres font ce qu'ils font dans le souci de plaire à Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, souligner. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un ? On lui fait un procès d'intention, on lui dit « t'es influencé par le monde environnant » ou « tu t'es laissé influencer par un tel ou une telle » ou « t'as lu un mauvais livre » ou « je sais pas quoi ». On lui dit « c'est un pauvre type, quoi, en fait, il n'est pas d'accord avec nous ». Et non, c'est pas l'approche que fait ici l'apôtre Paul. Alors, je lis moi aussi mieux sur l'écran. C'est un peu petit parce que je voulais quand même tout mettre sur un écran, quoi. Hein. Après, vous avez vos Bibles, hein. Les versets, ils sont écrits un tout petit. Vous voyez là, tel juge, il y a le petit 5. Voilà. Alors, puis là, j'ai pris le verset 2 aussi pour l'instant. J'ai essayé de regrouper. Bon, c'est un exercice qui a ses limites. Hein. Je ne prétends pas avoir réinventé tout, mais ça me semblait intéressant comme exercice. Tel à la fois pour manger de tout. Alors, on pourrait traduire aussi par tel pense pouvoir manger de tout. Mais c'est le mot foi, c'est intéressant, la foi de manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Alors, il y a quand même la notion de faiblesse qui est donnée ici. Je me contredis un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et Paul va quand même qualifier de faible une des deux catégories. Hein, et c'est d'ailleurs... et on peut considérer que ce n'est pas la sienne. Donc, ça veut dire que si on pense comme Paul, on pense que d'autres sont faibles. Qu'est-ce que pense Paul ? Tel juge, en effet, un jour supérieur à un autre. Tel autre, les juge tous égaux. Alors là, on ne sait pas trop à quoi Paul fait allusion. Est-ce qu'il fait allusion au judaïsme, aux fêtes juives, au Shabbat, par exemple ? C'est possible. Mais Paul s'adresse aux Romains. Il y a peut-être d'autres éléments du paganisme qui viennent aussi pousser, même s'ils sont chrétiens, les gens à... observer certaines fêtes païennes, certains jours où, c'était chômé, où il fallait faire ceci ou cela. Donc, on n'en sait pas plus avec certitude sur ces observances. Ce qu'on sait, c'est que les uns pensent d'une manière, il faut les observer, les autres disent non. que chacun dans sa propre intelligence soit animé d'une pleine conviction. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Paul, là, il respecte même celui qui va appeler faible, il ne va pas l'accuser de ne pas vouloir plaire à Dieu. Celui qui tient compte des jours en tient compte pour le Seigneur. Vous voyez, celui qui mange, alors, nouvelle pratique, qui mange, bah oui, on mange tous, hein. Donc là, c'est elliptique, c'est qui mange, on va le voir très nettement dans 1 Corinthiens 8, qui mange des viandes sacrifiées dans les temples païens. Alors, c'est un peu comme ça pose. C'est pas juste manger de la viande, c'est ce qu'il y a derrière, quoi, qui pose problème. Ou alors, c'est peut-être aussi, encore une fois, à cause de l'arrière-plan juif. Peut-être c'était pas de la viande cachère, alors que les premiers chrétiens, il y avait beaucoup de juifs qui mangeaient encore cachère, donc voilà. Il y avait tout ça. Soit c'était des temples païens dans lesquels les viandes étaient sacrifiées, du moins les animaux étaient tués, soit c'était pas cachère, donc est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange pas, voilà. On ne sait pas trop ce qui était vraiment au cœur des préoccupations de manger et pas manger. Celui qui tient compte des jours, pardon. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous, et là il dit bien nous, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas, c'est nous, tous ensemble, et on fait ça pour le Seigneur. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Car si le Christ est mort et a repris vie, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants. Voilà la première idée, c'est qu'il existe plusieurs points de vue. Et personnellement, dans certaines de discussions que j'ai eues avec des gens qui n'étaient pas toujours d'accord avec moi, je me suis farci, excusez-moi l'expression, mais c'est un geste d'humeur, ces procès d'intention où on me disait « tu es », ce que je disais tout à l'heure, « tu es influencé, tu es un mauvais exégète, tu es ceci, tu es cela », parce que les gens n'étaient pas d'accord avec moi, et tu as le désir de plaire, tu n'es pas bien intentionné. On me faisait ce qu'on appelle un procès d'intention. Je trouve que c'est intellectuellement très faible, parce qu'il faut aller aux arguments avant de faire des procès d'intention. Bref. 1 Corinthiens 8, j'ai juste mis entre parenthèses, ce qu'on pourrait mettre en parallèle, mais je l'ai mis ailleurs, Paul distingue ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas, je vous le disais tout à l'heure. Alors ensuite, eh bien justement, voilà, un texte, cette fois-ci, de Paul aux Corinthiens, que j'ai mis, qui n'a pas vraiment d'équivalent chez Romain, dans Romain, mais qui est quand même très voisin, donc je l'ai mis là. Pour ce qui concerne les viandes, alors là c'est plus précis, hein, merci Paul, enfin, sacrifiées aux idoles. Voilà, donc si vous m'invitez à manger du bœuf bourguignon, je le mangerai, hein, moi, c'est pas la viande en tant que telle. Il y a un commentateur qui a dit, peut-être qu'il y avait quand même des considérations végétariennes ou végétaristes, je sais pas, en faveur du végétarisme. Peut-être qu'il y avait certains courants ésotériques qui prônaient de ne pas manger de viande, possible, mais enfin, il disait, probablement c'est quand même assez secondaire, par rapport à ce qu'on peut comprendre de cette époque. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, en tout cas ici c'est clair que c'est pas juste les viandes, nous savons que tous nous avons de la connaissance. Et là, j'arrête la lecture parce que j'ai parcouru la lettre aux Corinthiens un certain nombre de fois, et la lettre aux Corinthiens a une particularité que les autres lettres n'ont pas, c'est qu'elle a beaucoup de citations. J'ai lu un commentateur qui dit que ce premier verset est très probablement une citation. C'est-à-dire, Paul cite les Corinthiens. Parce que regardez ce qu'il écrit après. La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. Vous savez, c'est dans nos bonnes vieilles traductions secondes, c'est comment ? La connaissance enfle et l'amour édifie. Voilà. Mais c'est pas mal traduit comme ça aussi. Hein. Elle gonfle d'orgueil. On voit la grenouille dans la fable de La Fontaine. Hein, la connaissance. Voilà, on va avoir plein de livres. C'est assez lamentable. La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Intéressant, hein, ce que Paul dit. Attendez, c'est Paul qui dit ça encore une fois. Hein, c'est pas un... C'est pas un fantaisiste. Hein. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Là, on voit Paul arrive à l'essentiel. Si quelqu'un aime Dieu, ce qui compte, c'est pas de connaître Dieu, c'est d'être connu par lui. Ça change tout. Donc cette première citation, ces premiers versets, effectivement, dénotent tout à fait avec le propos que Paul tient après. Donc c'est très probablement une citation, comme il en a fait à d'autres endroits dans la lettre aux Corinthiens. Donc, pour ce qui concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idoles dans le monde. Eh oui, les idoles, c'est quoi? C'est des bouts de bois. Ça, les prophètes d'Israël le disent depuis des siècles. Les idoles, c'est on met un clou pour que ça tienne bien, tout ça. Donc, ça n'existe pas. Et qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Sans commentaire. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Autrement dit, ceux qui ont bien compris ça, qu'on mange une viande sacrifiée à un truc qui n'existe pas, ça ne change rien. Premier point de vue. Ceux qui connaissent, ceux qui y voient clair, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression, qui vaut ce qu'elle vaut, on peut être plus libre. Si quelqu'un, si je sais que sur le marché, la viande que j'achète, l'animal a été tué dans un temple païen, je n'en ai cure, parce que de toute manière, un temple païen, c'est quoi? C'est rien, une idole, c'est rien, donc il n'y a qu'un Dieu. Voilà la première position. Mais je vais, ne vous réjouissez pas trop vite, je vais retourner à la lettre aux Romains. Ne pas condamner les autres qui veulent aussi plaire à Dieu. Et là, cet homme qui avait la connaissance tout à l'heure et qui disait « l'idole, c'est rien du tout, je peux manger ce que je veux, je suis libre, éclairé donc libre. » Mais regardez ce que Paul écrit aux Romains, c'est un peu un dialogue entre les deux que j'essaye de faire. « Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, ne le condamne pas. » Hein, celui qui ne mange pas, il va pointer du doigt celui qui a acheté cette viande sacrifiée dans le temple de tel dieu grec ou romain, et il va le pointer du doigt en disant « c'est un apostat !» Les plus faibles ont parfois des jugements très forts à l'égard de ceux qui sont plus libres qu'eux. « Qui es-tu, toi, verset 4, pour juger le domestique d'autrui ?» Alors, domestique d'autrui, c'est qui? Nous sommes tous domestiques de Dieu. Qui es-tu, toi, pour juger le domestique d'autrui? Qu'il tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître, c'est-à-dire le Seigneur. Et il tiendra, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Un texte un peu plus loin, vous voyez, j'ai mis deux petits traits pour dire que ce n'est pas la suite. Hein. Là, je reprends verset 10. Dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, par ma vie, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue reconnaîtra Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se moquer, enfin, que les autres vivent doit nous être égal. Il s'agit simplement de comprendre qu'à un moment donné, on peut ne pas être d'accord sans pour autant considérer que la personne ira en enfer. C'est de la liberté de chacun. Des remarques? Des questions? Alors, on y arrive. André faisait une remarque, mais je ne la recite pas parce qu'on va y arriver. Mais je prends le cas juste de débats comme le port du voile, par exemple, pour les femmes. On a été confrontés à ça ici dans notre église, mais aussi en Martinique, par exemple, ou dans d'autres endroits, d'autres églises, où vraiment, c'est une question. Et là, il y a des jugements. Et nous qui pensons, enfin moi qui pense qu'une femme n'est pas appelée à porter le voile tel que c'est pratiqué par ces autres personnes, je ne dois pas mépriser des personnes qui pensent qu'il faut le porter. Même si je trouve que leur exégèse, je ne suis pas d'accord du tout avec leur interprétation des textes, soit, mais quand même, je ne vais pas les accuser de faire n'importe quoi. Elles le font par souci de plaire à Dieu. Et ça doit être respecté. Par exemple. Alors on continue pour faire la suite à la remarque d'André. Là vous voyez que j'ai mis un seul titre pour les deux textes. Le titre c'est « Certains ne comprennent pas cette liberté ». Ne nous jugeons donc, je lis Romains à gauche, verset 13, jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre terre une pierre d'achoppement ou une cause de chute. Bon, alors là, c'est le mot en grec, c'est scandale. Hein. Donc ça a donné un scandale. Un scandale, c'est un scandale. Ça veut dire qu'on est choqué et qu'on tombe. Alors on tombe. Le mot scandale ne reflète pas le mot grec scandalion, parce que scandaler, c'est scandaliser quelqu'un au sens là de notre texte ici, ça veut dire le faire pécher. Or, si moi je scandalise quelqu'un parce que je porte, je sais pas, une chemise rouge vif, ça va pas le faire pécher, sauf peut-être à nourrir certaines pensées peu fraternelles à mon adresse. Je le sais bien, je suis au verset 14. J'en suis persuadé, dans le Seigneur Jésus, rien n'est souillé en soi, mais si quelqu'un estime qu'une chose est souillée, alors elle est souillée pour lui. Je prends le cas de l'alcool. Il y a des cultures, notamment aux États-Unis, où on ne doit pas boire d'alcool. Un chrétien ne boit pas d'alcool. Et je me souviens d'une circonstance, bon, rigolote, hein, c'était un marché aux puces, ici à l'église, et nous avions loué une tireuse à bière. Et j'avais un verre de bière à la main, parce que j'aime bien la bière, modérément, je vous rassure, et je me mets à discuter avec des gens, beau verre de bière, et ces gens étaient des chrétiens des États-Unis. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, vous êtes des États-Unis. Puis moi, je vois avec mon verre, je savais très bien que je suis pasteur de l'église, enfin un des pasteurs de l'église quand même. Vous imaginez, tout d'un coup, je me dis, aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Le mal est fait, hein, j'avais le verre de bière. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, excusez-moi, je ne voulais pas vous choquer, mais voilà, notre coutume ici est différente de la vôtre. Et puis, ils étaient tout à fait détendus sur cette question, et puis voilà, sans pour autant boire de bière eux-mêmes, hein, mais ça, j'étais loin de les y obliger, même si ça aurait pu arranger les finances du marché aux puces, mais bon, c'est une autre question. Rien n'est souillé en soi. Cette question de conscience doit nous être sensible. On a des coutumes, on a des habitudes. Et ces habitudes ne sont pas forcément meilleures que d'autres. On a l'habitude de se vêtir d'une certaine manière, de se coiffer d'une certaine manière, de se présenter, de fréquenter. Certains ont l'habitude d'aller prendre un café en ville sans aucun état d'âme. D'autres, c'est totalement en dehors de leur culture. Par exemple, on a longtemps appris que c'était des lieux de perdition, les cafés, etc. Eh oui, il y a des libertés que les uns ont et que les autres n'ont pas. Voilà ce que Paul dit. Si quelqu'un estime qu'une chose est souillée, alors elle est souillée pour lui. Si je n'ai pas cette liberté de le faire, je ne le fais pas. Mais il faut que je comprenne que quelqu'un peut avoir la liberté de le faire. Et je ne dois pas le condamner. Et le verset 7, là je passe du côté jaune, donc 1 Corinthiens. Là, vous vous souvenez, on parlait tout à l'heure de ceux qui avaient la connaissance. Ceux qui savaient très bien que les idoles étaient que du bois et de la pierre. Hein, c'est sacrifier aux idoles, bah, ça ne veut rien dire. Mais l'apôtre Paul continue, et c'est assez parallèle avec ce qui est dit dans Romains que je viens de lire. Tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, encore tenus par l'habitude des idoles, mangent de ces viandes en les considérant comme sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intégré qu'une idole, ça n'existe pas. Pour eux, c'est toujours un culte réel. Et en leur conscience, qui est faible, en est souillée. Parce qu'ils ont suivi l'exemple de ceux qui avaient compris, eux, que les idoles n'étaient rien. Eux, ils vont le faire, mais ça va les mettre mal à l'aise. Ils vont avoir une tension, un mal-être à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est dommage. Alors, il y a ce que tu disais, André, tout à l'heure. À un moment donné, souvenez-vous de ce que Paul disait, j'étais faible avec les faibles, j'ai été sous la loi juive, enfin juif avec les juifs, sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, sans loi avec ceux qui sont sans loi, etc. On peut accuser Paul de faire de la démago, mais il a compris quelque chose, ce qu'il explique ici. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne va pas pour ton aliment, par ton aliment, causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Un autre exemple, pour l'alimentation justement. Le boudin aux Antilles, Il existe une délicieuse recette de boudin. Ça s'appelle les boudins antillais, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et c'est du boudin. Or, il y a certains chrétiens qui font une certaine lecture de Acte 15 et qui disent qu'on ne doit pas manger le sang. Le boudin est fait avec du sang. Ben voilà, on se retrouve avec une considération alimentaire, il n'y en a quand même pas beaucoup hein, dans nos pratiques, une considération alimentaire qui partage les chrétiens. Et certains chrétiens ne mangent pas de boudin parce que c'est écrit dans la Bible, disent-ils. D'autres chrétiens en mangent parce qu'il est écrit dans la Bible, on peut manger de tout. Les tatouages. Moi, j'ai entendu des propos très très inverses sur les tatouages. C'est une certaine mode aujourd'hui, on se tatoue volontiers. Je vais bientôt me faire un tatouage ici. Il y a de la place là-haut. Certains disent non, parce qu'il y a un texte dans je ne sais plus quel texte de la Torah, du Lévitique sans doute, qui dit qu'il ne faut pas se faire de tatouage. Et puis c'est tout. Et certains disent, mais non, moi avec les tatouages, et certains l'ont fait, hein, moi j'ai vu un jeune s'être fait tatouer une énorme croix huguenote sur l'avant-bras. Osé quand même, mais comme ça, là, 15 cm la croix huguenote. Hein. Ou alors certains qui tatouent des signes qui évoquent leur foi, leur engagement. Enfin, on voit bien qu'ils sont motivés par un souci de témoignage. Si vous faites tatouer un texte de la Bible sur la peau, ça veut quand même dire que vous croyez que vous êtes prêt à vous engager dans le témoignage jusqu'au bout, quoi. C'est quand même important. Et c'est motivé par un désir de s'engager. Voilà. Là encore, il y a discussion. Les uns jugent les autres. Même si on n'est pas d'accord, moi, je rigolais, je ne vais pas me faire tatouer, hein, c'est pas mon style, pas envie, il paraît que ça fait mal en plus. Mais certains, ceux qui le font, j'en connais un certain nombre, y compris dans l'église, je regarde ce qu'ils ont fait, ça m'intéresse, j'en ai même conseillé un ou deux, voilà, c'est... sur le contenu, hein, je précise, pas sur le... Voilà d'autres exemples, des exemples très concrets, et qui peuvent donner lieu, si on n'applique pas ce genre de choses, et aussi ce qu'il y avait avant, hein, c'est-à-dire certains ne comprennent pas cette liberté, ne nous jugeons donc pas, etc. Si on n'applique pas ça, on a une mauvaise vie de communauté, chers amis. On a besoin d'une vie de communauté où nous nous accueillons. Nous accueillons celui que nous jugeons faible, nous l'accueillons. N'oublions pas d'ailleurs que sous la plume de Paul, celui qui est faible, c'est celui qui a une tendance au légalisme. Ça fait réfléchir. Alors que d'habitude, le faible, c'est celui qui se laisse aller à des mauvaises tendances, ce qui est vrai aussi. Hein. Mais c'est la faiblesse, c'est aussi de tellement barricader notre foi, de plus vivre la liberté à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est aussi une faiblesse, d'après l'apôtre Paul. Ceci dit, donc, il est quand même important... Par exemple, si je suis à table avec quelqu'un qui ne boit pas de vin, je reprends mon exemple de la bière de tout à l'heure, c'est clair que si j'étais à table, si nous les invitons à la maison, on ne va pas leur servir du Sylvaner, quoi. Ni du Coca, d'ailleurs. On va leur servir de l'eau de Mulhouse. Voilà. On ne va pas non plus rentrer dans la provocation. Et ça c'est aussi quelque chose d'important, qu'on soit à l'exemple de Paul. Ceux qui sont, moi qui fréquente beaucoup, qui est beaucoup fréquenté jusqu'à aujourd'hui les jeunes, je vois bien qu'il y a des choses, je ne vais pas faire la leçon, ils ne sont pas comme moi, je ne suis pas comme eux, mais on vit tellement bien ensemble, en étant différents quand même. Donc, il y a des choses dont on s'abstient, oui, c'est juste. Des choses qu'on ne fait pas quand on est ensemble. Alors... le principe, voilà, là il est repris, mais alors bien bétonné par l'apôtre Paul, des deux côtés, hein, je lis Romains, « Que personne donc ne puisse calomnier ce qui pour vous est bon. Si j'ai la liberté, moi, d'aller dans un café boire un café, eh bien, il ne faut pas non plus que ça soit, il faut que je fasse attention, dans certains cas, je vais peut-être m'en abstenir par souci de ne pas choquer quelqu'un qui aurait... qui se dira, ah bah si on peut aller là, moi je peux aller partout ailleurs et faire n'importe quoi, si Jean-Marc, lui, il va dans un café. Alors à ce moment-là, j'irai pas dans un café. On aura le café chez moi. En effet, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est-à-dire qu'on a toute une série de pratiques qui sont que des pratiques. que du tissu, que quelque chose qu'on mange et qui va disparaître. C'est pas ça qui est notre foi. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce que Jésus a enseigné, c'est un progrès énorme par rapport au judaïsme, c'est la question de l'alimentation. Jésus a bien dit, ce qui vous souille, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est ce qui sort. Et il parle pas du moment quand on a une gastroentérite, hein, c'est pas ça, hein, c'est ce qu'on dit. En effet, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie, par l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Car celui qui, en tout cela, sert le Christ comme un esclave, est agréé de Dieu et apprécié des humains. Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Ne va pas détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Certes, tout est pur, mais il est mauvais de faire de sa nourriture une pierre d'achoppement. Ben là, on a les rapports que nous avons, pouvons avoir alors, à l'extérieur de l'Église avec les musulmans ou les juifs, qui eux mangent respectivement halal et kasher. Ah, c'est sûr que si je vais voir le rabbin de Mulhouse, je ne vais pas lui offrir un jambon beurre. C'est clair, quoi. Alors que le jambon beurre est pour moi le meilleur des sandwichs du monde. Donc, faut faire attention. On va pas. Souvenez-vous de ce qui est central. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. Ce n'est pas ce qu'on mange. Ce n'est pas la musique que nous jouons. Ce n'est pas les vêtements que nous portons. Ainsi donc, poursuivons. Oui, j'ai lu. Certes, tout est. Oui, ben, j'ai tout. Alors, verset 9 de 1 Corinthiens 8. Prenez garde cependant que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Voilà, c'est la même chose. Et là, le droit, c'est cette idée de liberté de faire. Pour le contexte corinthien, liberté de manger des viandes qui étaient sacrifiées dans le culte des idoles. Nous, on en mange parce qu'on sait que c'est que des idoles, ça vaut rien. Mais si ma liberté ou mon droit devient une occasion de chute, c'est-à-dire si l'autre il me voit faire et lui il va manger puis lui après ça va lui mettre la tête à l'envers parce qu'il va pas comprendre où il en est, il va perdre le nord, ben alors là je dois m'abstenir. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table dans un temple d'idoles, hein, vous avez remarqué qu'il y a deux choses en fait, il y a les viandes achetées qui ont été plus ou moins sacrifiées dans les temples aux idoles, mais là c'est le degré au-dessus, hein. Je vais m'asseoir dans un temple d'idoles. Comparons ça au café si on veut, mais bon, je veux dire, c'est quand même un acte fort. Hein. À table dans un temple d'idole, la construction de sa conscience ne va-t-elle pas l'amener, lui qui est faible, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à manger des viandes dans son esprit sacrifiées aux idoles? C'est-à-dire qu'il va livrer deux cultes en même temps, le culte aux idoles et le culte à Dieu. Alors que moi, je n'aurais jamais cessé de ne rendre qu'un culte à Dieu. Manger dans un temple d'idoles, c'est manger dans une maison. Avec une statue en bois. Ainsi le faible se perd à cause de ta connaissance. Lui, ce frère, pour qui le Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. Là, vous mesurez un petit peu, nous mesurons la gravité de ne pas prendre en compte le faible. Je poursuis. Mais vous voyez que là, c'est sûr, nous allons faire attention aux autres dans l'usage de notre liberté. Paul reprend ces mêmes idées dans les deux lettres, hein, et en disant bien que les forts sont ceux qui font attention aux faibles, et les faibles sont ceux qui auraient tendance à se laisser ébranler par la liberté de ceux que là, Paul appelle les forts. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de conviction. Et c'est là toute la difficulté. J'ai des convictions, j'ai la liberté de faire ceci et pas celle de faire cela, et ça doit rester ma liberté. C'est pas parce qu'il y a d'autres qui pensent autrement que je dois toujours me disparaître derrière les autres. Et puis, la fin de la lettre, du texte de Romains est magnifique. Que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous. Voilà. Paul a commencé en disant, il y en a les uns qui pensent ci, les autres qui pensent ça, voilà. Mais là, bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à la fois il y a la différence et à la fois il y a l'harmonie. J'ai essayé de résumer j'ai repris grosso modo, hein, pas tout à fait, j'ai repris tous les résumés que je vous ai mis en couleur et je les ai mis là. Il existe plusieurs points de vue, mais quand on y voit clair, on peut être plus libre. Il ne faut pas condamner les autres qui veulent aussi plaire à Dieu. Certains ne comprennent pas la liberté des autres, alors ces derniers doivent s'abstenir de son plein usage. Leur vie n'en dépend pas. Si je peux pas, moi, aller boire mon café à tel endroit, j'en mourrai pas, les amis. C'est pas grave. Il y a plus important. C'est bien plus important de ne pas causer problème chez les plus faibles. Il faut donc agir selon sa conviction, mais rechercher l'harmonie avec tous. Autrement dit, on a une feuille de route, mais on doit décider à chaque fois de notre comportement. Et je termine avec un mot qui a été donné à la réunion des animateurs de groupe. La faiblesse n'est pas l'intolérance. C'est-à-dire que, on a vu d'ailleurs que Paul demande à ce que les faibles, ceux qui s'attacheraient plus volontiers à des formes très très précises de la foi, ne condamnent pas ceux qui ont plus de liberté qu'eux. Donc il ne faut pas que la faiblesse soit de l'intolérance. Et franchement, on n'est pas à l'abri du risque. Au sens où elle deviendrait un moyen de pression. Elle n'a pas non plus la nonchalance, elle n'est pas non plus au sens où elle deviendrait une excuse, c'est-à-dire, oh ben moi je suis tout simple, hein, je fais ce que je peux, dans l'église je ne suis pas capable de grand-chose, et puis la personne elle est capable de vous démonter ciel et terre par ailleurs, mais l'église elle est vraiment faible, hein, la pauvre. Hein. Et donc la faiblesse n'est pas une excuse, la faiblesse doit se travailler. Rien n'empêche. Il n'y a pas deux catégories, les uns sont faibles, les autres sont forts, il y a des certains domaines, je suis plus fort que d'autres, Et j'ai des choses à apprendre de la part de personnes qui sont plus fortes que moi dans d'autres, où je suis faible, etc. La force n'est pas un sujet d'orgueil, ça on l'a compris, puisqu'elle permet de bien comprendre la faiblesse de la nature humaine. Souvenez-vous, la faiblesse vantée par l'apôtre Paul, la faiblesse comme vertu chrétienne. Elle n'est pas l'intolérance qui imposerait son point de vue comme seul valide. Ça, je tenais à le préciser parce que... oui, on a la connaissance, on a tout compris, donc on impose. Eh bien non, c'est pas comme ça que l'apôtre Paul voit les choses. Une église en bonne santé, c'est prendre soin des plus faibles de foi. Faible de foi, c'est une expression qui apparaît deux ou trois fois dans les lettres de Paul. Et ils ont une foi faible. Donc je vous l'ai dit, la foi faible, c'est la foi qui manque de force, de conviction, et qui est superficielle, etc. Elle leur donne le soutien dont ils ont besoin. Pour cette raison, on n'a donc pas toute liberté d'y faire ce qu'on veut, même si cela nous apparaît comme juste. Une église en bonne santé n'est pour autant pas sclérosée pour ne pas choquer. Elle évolue, se transforme comme tout organisme vivant et est le lieu communautaire dans lequel la foi doit pouvoir être traduite librement. Voilà, j'espère que ça vous convient. J'ai de loin pas tout dit. En même temps, j'étais un peu bavard quand même. Mais il y a la suite dans les groupes de maison. Moi, j'ai cité quelques exemples. Je suis passé du boudin au voile, Mais y en a certainement d'autres. Eh ben, bienvenue dans les groupes de maison qui ont lieu dans une semaine, enfin, disons, la semaine prochaine, pas forcément le mercredi. Hein. Y a-t-il des questions, ceci dit ? Oui, ben, je l'ai lu, sauf que c'était dans une autre traduction. André se souvient d'un verset qui dit que chacun plaise au prochain en vue de l'édification. Comme c'est une autre traduction, on ne l'a pas tilté, mais il est bien là. Cette idée de chercher à ce que l'autre se construise par notre attitude, de contribuer au moins. Oui. Merci beaucoup.
Il faut être modéré, quoi.
Oui, oui, oui. Alors, Pido dit un texte de l'Ecclésiaste, hein, j'avoue.
Texte de l'Ecclésiaste.
Parfait, bravo. Donc, ne pas être juste à l'extrême. Intéressant, ça. Hein. Ouais. Merci, c'est tout à fait dans notre contexte. Et à propos de citer ça, merci. Et ne pas être pêcheur à l'extrême, ça, oui, ça, on ne sait plus... Plus simple pour nous de comprendre ça, ne pas être juste à l'extrême. Ça, c'est un peu cette idée qu'on est dans le compromis, quoi. On va faire avec des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Mais bon, c'est ça l'amour. Plus de remarques ? Je vous propose de prier.